Chapitre 9e. Il est impossible de rendre l'expression de bonheur triomphant que trahirent les traits de Madame de Beauménil lorsqu'elle vit sa femme de chambre s'éloigner. La pauvre mère se savait sûre d'être au moins seule pendant une heure avec sa fille. Grâce à cet espoir, une faible rougeur colora le pâle visage de Madame de Beauménil. Ses yeux, naguère éteints, brillèrent d'une ardeur fébrile. Une surexcitation factice, malheureusement passagère, succédait à la prostration de ses forces, car la comtesse faisait un effort presque surhumain pour sortir de son état de faiblesse ordinaire, afin de profiter de cette occasion, une des dernières peut-être, de s'entretenir avec sa fille. Lorsque sa femme de chambre fut sortie, Madame de Beauménil dit à Herminie, qui, baissant ses yeux pleins de larmes, n'osait pas la regarder, « Mademoiselle, auriez-vous l'obligeance de me donner dans une tasse un coussi cuillerée de cette potion réconfortante qu'elle a sur la cheminée ?»« Mais, madame, » dit Herminie avec inquiétude, « vous oubliez sans doute que le médecin a ordonné que vous ne prissiez cette potion que par très petite cuillerée. Hier du moins, il m'a semblé l'entendre faire cette recommandation. Oui, mais je me sens beaucoup mieux, et cette potion me fera, je crois, un bien infini, me donnera de nouvelles forces. » « Madame la comtesse se sent mieux, » dit Herminie, hésitant entre le désir de croire Madame de Beauménil et la crainte de la voir s'abuser sur la gravité de sa situation. « Vous doutez peut-être de ce mieux que je ressens, Madame la comtesse. Cette triste cérémonie de tantôt vous a effrayée, n'est-ce pas, mademoiselle? Mais rassurez-vous, elle était toute de précaution, et la conscience d'avoir rempli mes devoirs religieux et d'être prête à paraître devant Dieu me donne une si grande sérénité d'âme que je lui attribue le mieux que j'éprouve. Et de plus, je suis sûr que ce cordial que je vous demande et que vous me refusez, ajouta Madame de Beauménil en souriant, me réconforterait tout à fait et me permettrait d'entendre encore un de vos chants qui tant de fois ont distrait ou calmé mes douleurs. Puisque Madame la Comtesse l'exige, dit Herminie, je vais lui donner cette potion. Et la jeune fille, réfléchissant qu'après tout une dose plus ou moins forte de cordial ne pouvait avoir un fâcheux effet, versa 4 cuillerées de ce réconfortant dans une tasse qu'elle offrit à Madame de Beauménil. La comtesse, en prenant la tasse qu'Herminie lui présentait, tâcha de lui toucher la main, comme par mégarde. Puis, toute heureuse de sentir, pour la première fois, sa fille si près d'elle, car celle-ci, courbée au chevet de sa mère, tendait la soucoupe pour y recevoir la tasse, Madame de Beauménil fut longtemps, bien longtemps, à boire le cordial à petite gorgée. Après quoi, elle fit un mouvement de gêne et de fatigue si affectée qu'elle obligea presque Herminie à lui dire « Madame la comtesse est fatiguée. » « Un peu. Il me semble que si je restais quelques instants sur mon séant, cela me ferait du bien. Mais je suis si faible que je n'aurais pas la force de me tenir. Si Madame la comtesse voulait s'appuyer sur moi, dit la jeune fille avec hésitation. « Cela pourrait la délasser un peu. J'accepterais, si je ne craignais en vérité, mademoiselle, d'abuser de votre obligeance, » répondit Madame de Beauménil, en cachant sa joie de voir le succès de sa ruse maternelle. Herminie avait le cœur trop gonflé de tendresse et de larmes pour pouvoir répondre. Elle se pencha sur le lit de la malade et celle-ci, pendant quelques instants, put appuyer sa tête sur le sein de sa fille. À ce rapprochement qui, pour la première fois de leur vie, les mettait, pour ainsi dire, dans les bras l'une de l'autre, la mère et la fille tressaillirent. Leur attitude les empêchait de se voir. Sans cela, peut-être, Madame Beauménil, malgré son serment sacré, n'aurait pas eu la force de taire plus longtemps son secret. Peut-être aussi, elle aurait lu dans le regard d'Herminie que celle-ci était instruite du mystère de sa naissance. Pendant le peu de temps que dura cette scène muette et saisissante entre la mère et la fille, « Non, non, pas de criminelle faiblesse, » pensa Madame de Beauménil en comprimant les élancements de son cœur. « Que cette malheureuse enfant ignore toujours ce triste mystère, je l'ai juré. N'est-ce pas pour moi un bonheur inespéré que de jouir de ces soins affectueux dont elle m'entoure par bonté de cœur, par instinct peut-être ? » « Oh, plutôt mourir, » pensait à son tour Herminie, « plutôt mourir que de laisser soupçonner à ma mère que je sais que je suis sa fille, puisqu'elle a cru devoir me cacher ce secret jusqu'ici. Peut-être, d'ailleurs, l'ignore-t-elle elle-même? Peut-être est-ce le hasard, seulement le hasard, qui, depuis peu de temps, m'a rapproché de Madame de Beauménil. Peut-être ne suis-je à ses yeux qu'une étrangère. À ces pensées simultanées, la mère et la fille dévorèrent leurs larmes cachées, puisèrent un nouveau courage, l'une dans la religion du serment, l'autre dans une résignation mêlée de délicatesse et d'orgueil. « Merci, mademoiselle, » dit Madame de Beauménil, sans oser pourtant regarder encore Herminie. « Je me trouve un peu délassée. »« Madame la comtesse veut-elle permettre que j'arrange ses oreillers avant qu'elle se couche ?»« Oui, mademoiselle, puisque vous avez cette bonté, » répondit Madame de Beauménil. Car ce petit service retenait encore sa fille tout près d'elle pendant quelques secondes. « Mademoiselle, madame la comtesse. » On ne saurait exprimer l'accent avec lequel cette mère et ses filles échangeaient entre elles ces froides et cérémonieuses appellations, qui jamais ne leur avaient paru plus glaciales. « Encore merci, mademoiselle, » dit la comtesse en se recouchant. « Je me trouve de mieux en mieux, grâce à vos bons soins d'abord, puis sans doute à ce cordial. Je dirais presque, moi, si faible tout à l'heure, que maintenant je me sens forte. Il me semble que j'aurai une bonne nuit. » Herminie jeta un triste regard sur son chapeau et sur son mantelet. Elle craignait de se voir congédiée au retour de la femme de chambre, car peut-être il ne conviendrait pas à Madame de Beauménil d'entendre de musique ce soir-là. Ne voulant cependant pas renoncer à un dernier espoir, la jeune fille dit timidement à sa mère « Madame la comtesse m'avait demandé hier d'apporter quelques morceaux d'Obéron. Je ne sais si elle voudra les entendre ce soir. »« Certainement, mademoiselle, » dit vivement Madame de Beauménil. « Vous savez combien de fois votre chant a apaisé mes souffrances. Et ce soir je me trouve si bien, mais si bien, que vous entendre sera pour moi, non pas un calmant, mais un vrai plaisir. » Herminie regarda de nouveau Madame de Beauménil et fut frappée du changement qu'elle remarqua dans sa physionomie naguère encore pâle, abattue, et alors calme, souriante et légèrement colorée. À cette sorte de métamorphose, les funestes pressentiments de la jeune fille se dissipèrent. L'espoir épanouit son cœur. Elle crut sa mère sauvée par un de ces revirements soudains si fréquents dans les maladies de langueur. Herminie, toute heureuse, alla prendre son cahier de musique et se dirigea vers le piano. Au-dessus de ce piano, on voyait le portrait d'une petite fille de 5 ou 6 ans, jouant avec un magnifique lévrier. Elle n'était pas jolie, mais sa figure enfantine avait un grand charme de douceur et de naïveté. Ce portrait, fait depuis environ 10 ans, était celui d'Ernestine de Beauménil, fille légitime de la comtesse. Herminie avait deviné, sans qu'elle eût jamais eu besoin de le demander, quelle était l'original de ce tableau. Aussi, que 2 fois, à la dérobée, elle avait jeté un timide et tendre regard sur cette petite sœur, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne devait peut-être jamais connaître. Encore sous l'influence d'une émotion récente, Herminie, à la vue de ce portrait, ressentit une impression plus profonde que de coutume. Durant quelques instants, elle ne put détacher ses yeux de ce tableau, tandis qu'elle ouvrait machinalement le piano. Madame de Beauménil suivait d'un regard attendri tous les mouvements de la jeune fille, qu'elle voyait avec bonheur contempler le portrait d'Ernestine. « Pauvre Herminie, » pensa la comtesse, « elle a une mère, une sœur, et elle ne doit jamais connaître la douceur de ces 2 mots, ma sœur, ma mère. » Puis, essuyant une larme furtive, Madame de Beauménil dit tout haut à Herminie, toujours attentive devant le portrait, « C'est ma fille. Et quelle douce figure d'enfant, n'est-ce pas ?» Herminie tressaillit comme si elle eût été surprise en faute, rougit et répondit timidement, « Pardon, madame, mais je... Oh, regardez-la !» reprit vivement Madame de Beauménil. « Regardez-la, quoiqu'elle soit maintenant jeune fille et bien changée, elle a conservé ce regard si doux, si ingénu. « Sans doute, elle est loin d'être belle comme vous, » dit presque involontairement la pauvre mère avec un secret orgueil, et tout heureuse de pouvoir unir ainsi ses 2 filles dans une même comparaison. « Mais la physionomie d'Ernestine a, comme la vôtre, un charme infini. » Puis, craignant de se laisser entraîner trop loin par l'attrait de cette comparaison, Madame de Beauménil ajouta tristement, « Pauvre enfant, puisse-t-elle être mieux portante à cette heure ?» « Avez-vous donc des inquiétudes sérieuses sur sa santé, madame la comtesse ?»« Hélas, à l'époque de sa croissance, sa santé s'est profondément altérée. Elle a grandi si vite, qu'elle nous a donné beaucoup de craintes. Les médecins l'ont envoyée en Italie, où je n'ai pas pu l'accompagner, retenue ici sur ce lit de douleur. Heureusement, ses dernières lettres sont rassurantes. Pauvre cher enfant, elle m'écrit chaque jour une espèce de journal de sa vie. Rien de plus tendre, de plus touchant que ces naïves confidences. Il faudra que je vous fasse lire quelques passages de ses lettres. Alors vous aimerez Ernestine comme si vous la connaissiez. Oh, je n'en doute pas, madame, et je vous remercie mille fois de cette promesse, dit Herminie sans cacher sa joie. Et puisque les dernières nouvelles de mademoiselle votre fille sont si rassurantes, n'ayez donc aucune crainte pour elle, madame. Il y a tant de ressources dans la jeunesse, et que ne peut la jeunesse sous l'influence de ce beau soleil d'Italie que l'on dit si vivifiant. Une pensée amère traversa l'esprit de madame de Beauménil. En songeant aux coûts de voyage, aux soins extrêmes, aux dépenses considérables nécessitées par la faible santé d'Ernestine, la comtesse se demandait avec une sorte d'effroi comment Herminie aurait pu faire, pauvre créature abandonnée qu'elle était, si elle se fût trouvée dans la position d'Ernestine, et si, comme à celle-ci, il avait fallu à Herminie, sous peine de périr, ses soins excessifs, ses voyages dispendieux, seulement accessibles aux grandes fortunes. Alors madame de Beauménil ressentit plus vivement que jamais le désir de savoir comment Herminie avait surmonté les difficultés, les hasards de sa position si précaire, si difficile. Depuis le moment où la comtesse n'en avait plus de nouvelles, jusqu'au jour récent où elle avait été rapprochée d'elle par une circonstance inespérée. Mais comment, sans se trahir, madame de Beauménil pouvait-elle provoquer et entendre de telles confidences? À quelles angoisses elle allait peut-être s'exposer en écoutant le récit de sa fille? Tels étaient les motifs qui, jusqu'alors, avaient empêché madame de Beauménil de demander à Herminie quelques révélations sur sa vie passée. Mais ce jour-là, soit que la comtesse pressentit que le mieux passager qu'elle éprouvait, et dont elle exagérait de beaucoup l'importance afin de rassurer sa fille, annonçait peut-être une rechute funeste, soit qu'elle céda à un sentiment de tendresse irrésistible, encore augmenté par les divers incidents de cette scène, madame de Beauménil prit la résolution d'interroger Herminie.